Ray nous demande quelle était l'offre. Quand j'ai travaillé au gouvernement, moi, on ne faisait rien en dessous de 100 000. Ça doit être quelque chose. Rien en dessous de 200 000. Vous utilisez la mauvaise monnaie en échange. Ils veulent mettre aux enchères les sièges qui restent, qui ne sont pas remplis à la table du directoire. À ce moment.
There's a mic open. So, good morning. Welcome.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes installés ici, style classe d'école. Il y a une tension entre le fait que nous n'aurons peut-être pas forcément assez de place. Et c'est donc. On préférait cette mise en place que la mise en place un peu en U, quoi. Donc, il est préférable d'utiliser cette espèce de mise en place cette semaine. Surtout aujourd'hui, on va essayer. À Toronto, de faire un système différent avec peut-être une salle mise en place en forme de U. C'est un peu difficile de trouver la bonne installation. Il est encore tôt, les gens ne sont pas encore arrivés, la salle n'est pas pleine. Donc, je m'excuse. J'espère que nous allons pouvoir tous nous voir, surtout sur les gens qui sont sur les côtés. De la part du directoire, nous sommes très, très. C'est un plaisir d'être ici. Nous espérons vous donner assez d'informations et nous espérons être direct et juste. Nous avons fait un peu de préparation. Nous savons ce que. Nous sommes intéressés de vous entendre parler, de partager vos opinions et nous espérons pouvoir partager avec vous ce que vous attendez de nous. On va passer le micro à Olivier pour qu'il fasse un petit prenne la parole et nous espérons que j'espère que nous pourrons vous répondre de façon assez compacte pour que on puisse focaliser notre temps sur l'échange, sur les sujets qui valent la peine de discuter en profondeur. Merci de nous voir. C'est Olivier. C'est toujours un bon échange que nous avons avec vous et j'espère que vous allez pouvoir obtenir des informations de notre part. À ma gauche, il y a Tinjani, Jean-Jacques Subrena, Bebo Viviane, Carlton Swan, et Renalia Abdulrahim. Ils sont des membres du comité exécutif, bien sûr, sauf Jean-Jacques. Et nous sommes contents de la discussion que nous allons avoir avec vous, la discussion que nous avons eue, et je vais y passer assez vite. Les recommandations du directeur et du directoire, surtout sur le fait que le directeur devrait être plus engagé dans les OUI. Je ne sais pas vraiment si c'est un sujet assez court. J'espère que si on pouvait répondre à cela en l'écrit, ce serait peut-être mieux. Et le deuxième sujet, c'est la réponse sur les propositions aussi. C'est quelque chose sur lequel on peut répondre en 30 secondes. Et aussi après, les priorités du directeur vis-à-vis du nouveau PDG. Vous avez déjà vu les deux ou trois derniers jours les priorités que nous avons à ce sujet-là. Donc, la réponse est déjà donnée. Merci beaucoup. Je n'ai même pas pensé à me présenter moi-même et présenter les autres. Je suis Steve Quaker. Rod Backsham est à ma gauche, qui est PDG. Akomatala, COO. Et ensuite, la personne qui va être le PDG pendant la période d'intérim. Ensuite, nous avons Sébastien Bachelet. Et les autres membres du directoire sont cachés dans le premier rang. Elles sont distribuées comme ça. Il y en a d'autres qui sont un peu plus en arrière. Et nous avons Hadi Shahadi aussi, qui est là. Je vais donc essayer de passer assez vite sur les questions at large, les vues, les opinions du directeur sur le rapport final de WHOIS, que le bureau devrait être plus engagé dans les WHOIS. La réponse rapide, facile que je peux vous donner, c'est que nous n'avons pas eu encore l'occasion de vraiment comprendre les recommandations. Nous avons un processus, le rapport a été reçu, publié, il y a donc une période de commentaires publics. Une des étapes importantes pour donc gérer ce rapport, c'est de faire une évaluation des ressources qui sont demandées, donc qui sont requises, et les considérations opérationnelles. Si on devait accepter les recommandations comme elles ont été écrites, ce que cela prendrait pour les mettre en place. Donc, où est-ce que cette mise en place serait faite? Qui serait engagé dans ce processus? L'élément séparé, donc le plus important, c'est comment nous allons procéder avec ce rapport, ce qui sera donc engagé pour le faire, ce que nous accepterons, si nous allons mettre une certaine interprétation ou des détails dans ce que nous comprenons de ce rapport. Je n'ai pas encore vraiment regardé et lu le rapport personnel et pensé vraiment à toutes les recommandations qui ont été faites. Nous savons, je ne veux pas faire de suggestions, je ne veux pas non plus éviter quoi que ce soit, nous considérons le travail dur qui a été fait. Nous savons que c'est un sujet important et nous savons certainement que nous devons prendre ces recommandations sérieusement et nous allons vraiment regarder et avoir une réponse constructive là-dessus. Mais il y a une tension entre n'importe qui d'ailleurs, qui que ce soit, les recommandations, entre les recommandations et ce que nous allons en faire. Nous sommes dans les phases, dans les premières phases, donc je pense que je pourrais dire, en lisant ces mots, sans avoir, en disant ce que je dis maintenant sans avoir lu le rapport, qu'il y ait plus de stratégies, que nous soyons plus engagés. Il y aura donc des limitations puisque nous, au directoire, nous travaillons, disons, mi-temps. Donc, nous sommes bien sûr engagés stratégiquement sur beaucoup de choses, mais il doit y avoir un focus qui soit mis sur ces stratégies. Donc, voilà. La réponse pour les propositions, ça devrait être pour les requêtes de propositions. Notre proposition est-ce que je lis ça correctement? C'est une mise à jour sur les propositions ICANN pour les IRR. La réponse courte, c'est que le processus a été fermé à la fin de mai. ICANN a soumis une proposition et nous attendons d'entendre. Il n'y a rien d'autre qui puisse être dit puisque c'est un procurement du gouvernement américain. Quand nous saurons plus, vous saurez donc plus. C'est difficile de dire si cela sera rapide ou si cela prendra plusieurs semaines de plus. Nous partageons tous entre nous, nous partageons ce sens d'anticipation. Nous attendons de voir ce qui va se passer. C'est le maximum que l'on puisse dire à ce jour. Et comme Olivier l'a dit, nous avons eu la chance d'entendre parler Paris dans plusieurs réunions et vous avez un peu une idée. Vous pouvez voir où est-ce que notre nouveau PG va aller, ce qu'il va faire. Je pense que nous pouvons aller vers les questions qui ont été soumises au directoire. Et le premier sujet, c'est les négociations RAA. Je ne sais pas où vous voulez qu'on commence sur les explications ou on commence directement avec nos commentaires. Dans l'intérêt du temps que nous est dévoyé, donc pour tous les gens qui ne sont pas sûrs du contexte, on va commencer avec les problèmes de structure. Evan Libovitch. Bonjour Steve. Je pense qu'un des domaines où nous avons focalisé notre attention dans les RAA, c'est sur 3.7.8, les éléments de conformité. Nous étions concernés au niveau de la stabilité. Nous avons parlé au personnel qui s'occupe de la conformité. Nous avons vu qu'il y avait des difficultés dans leur capacité de compléter, de prendre des choses qui venaient des enquêtes et des conformités volontaires. Et on voulait voir quelles étaient les mesures qui seraient prises après ça. Donc, les enquêtes d'autres membres à l'intérieur d'Atlas ont indiqué que la façon de 3.7.8 a été écrite rend les choses difficiles pour faire appliquer les conformités. Donc, on va peut-être on va peut-être écrire des choses à ce sujet. Notre focus a été sur la façon de faire appliquer les outils que ICANN a pour faire face aux breaches. Les violations et les choses comme ça. Donc, je dirais que à partir du travail que j'ai fait sur ce sujet, ça a été primordial sur ma liste, sur notre liste. Les négociations de RA et les détails du contrat sont toutes les choses sur lesquelles le personnel à laquelle a travaillé. Voilà, vous êtes peut-être dans une position où vous pouvez commenter sur la façon dont la façon dont nous avons appliqué les choses sur les négociations. Moi, j'ai rien à dire. Je ne l'entends pas, je suis désolée. Pas de micro. Je devrais y regarder. Je n'ai pas de connaissances profondes sur ces provisions de SAM. Peut-être de l'équipe juridique peut répondre. Voilà, Samantha Heisner, du juridique de ICANN juridique. J'étais avec ELAC et nous avons parlé de la conformité. Nous avons parlé de ce sujet. Comme nous avons la connaissance des inquiétudes de ALAC sur ce sujet. Cependant, les provisions contractuelles sont écrites de façon à ce que de la façon dont nous pouvons appliquer les choses, ça nous permet pas d'être clair ou d'être direct comme ALAC l'a interprété. Aussi, c'est clair que durant les négociations que nous avons maintenant, nous avons du langage dans les écrits qui sont publiés pour le public. Nous n'avons pas donc de pouvoir là-dessus. Ben, nous sommes au courant et nous essayons d'y travailler. Vous voulez dire plus là-dessus, Carlton Samuels? Oui, Steve Carlton Samuels. Il y avait donc une inquiétude qui avait été exprimée par mes collègues durant les négociations, puisque c'est un sujet très important, la mise en place du contrat, ça devrait être ouvert au consensus, aux activités de type consensus pour savoir si vous avez une opinion, si on peut ouvrir les négociations de RAA à d'autres groupes. Commentaire de Heidi Reich. Les détails de 3.7.8, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les réunions avec Samantha. Le problème, c'est que j'ai lu le nouveau langage qui fait référence aux spécifications dans les termes ce dont on a besoin pour la justesse. Mais c'est encore à être, ça demande encore un jugement. Et il y a encore de tas de choses où il y a encore beaucoup de gris. C'est pas encore noir et blanc, c'est pas encore noir sur blanc. Nous avons pas encore pris toutes les étapes. Ce n'est pas encore fermé. Nous avons encore des tests à faire, des étapes à passer. Est-ce que les choses ont été faites? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont le genre de choses que nous allons demander de façon à rendre ce que 3.7.8 ait un sens. Bertrand, pour la discussion, donc quand il s'agit de cette discussion, quand vous dites qu'il y a des inquiétudes et de la place pour faire des changements, il peut y avoir des inquiétudes dans deux directions. Soit que les provisions amènent un levier plus fort d'un côté ou de l'autre, ou de l'autre côté qu'il y ait de la place pour est-ce que vous pouvez nous dire où sont vos inquiétudes? Evan va parler de cela. Bertrand, bonjour. En fait, après les réunions avec la conformité, nous n'avons pas eu de cas spécifiques ou de choses qui étaient arrivées à un point mort. Si basé sur les régulations qui existent maintenant, nous sommes donc allés de là devant avec des exemples spécifiques. Nous avons vu la forme courante de 3.7.8 et ça a été interprété. Nous n'avons rien vu qui est passé à travers, disons, ou des choses qui n'ont pas été traitées. En fait, nous avons même des inquiétudes avec l'inquiétude. Nous avons des inquiétudes avec la proposition de réécriture qui a été faite. Et nous allons soumettre ça probablement avec un texte qui sera suggéré. Mon commentaire n'est pas là-dessus, donc si vous voulez éditer cela, mon commentaire. Est-ce qu'il y a plus sur ce sujet, sur les négociations RAA ou sur le 378? Je suis toujours... C'est pas facile, ces discussions. Je me sens pas bien avec tout ce qui se passe sur les négociations de RAA. Mais je soutiens le côté collégial afin qu'on puisse avoir un accord sur ce problème. Comme il est écrit en ce moment, si je l'ai bien écrit, c'est pas une négociation que ICANN a le droit de ça semble être quelque chose qui n'est jamais mentionné. C'est peut-être qu'on ne veut pas le mentionner, comme si on avait une épée de Damoclès. Je ne sais pas vraiment où on en est. Il semble qu'on a besoin d'être d'accord avec... C'est bizarre pour moi de deux façons. Une façon, c'est que... Est-ce que vous parlez en tant que membre ALAC ou en tant que registraire? Il semble que c'est le genre de choses que j'entendrais de la part d'un registraire, ce qui serait une chose complètement normale qu'un registraire pourrait dire. Peut-être que je ne suis pas très claire alors, je n'ai pas parlé très clairement. Ce n'est pas quelque chose qu'un registraire dirait, je pense qu'il est tôt le matin. Peut-être que je n'ai pas vraiment compris ce que vous essayez de dire. Concernant l'accord, le contrat comme je l'ai lu, je n'ai personne qui m'a fait opposition et je n'ai pas parlé, je n'ai pas eu les opinions juridiques de ICANN. La nouvelle version du contrat qui rentre en place après 5 ans, les choses qui sont mises en place par ICANN et qui ne sont pas explicitement négociées. Si ICANN a besoin d'une provision pour pouvoir mettre en place le contrat, faire appliquer le contrat, qu'il ait besoin d'une provision pour faire un changement, on dirait que le droit est là pour qu'on puisse mettre ça dans le contrat, même si les registraires ne sont pas d'accord. Je comprends tout à fait que vous devez consulter avec les registraires pour voir quelles sont les implications du changement. Ce serait bien mieux de pouvoir être d'accord sur tout, mais ce n'est pas un prérequisite du contrat. Nous parlons de cela comme si c'était pas possible de négocier et que cela ne peut pas se passer comme ça. Donc moi, ça me gêne. Votre point de vue, c'est que nous devrions faire plus puisque nous avons le pouvoir, disons. Ou est-ce que vous focalisez sur le fait que les négociations ne nous amènent pas sur la bonne voie? Je suis inquiet que ICANN ait oublié que maintenant, je comprends, nous sommes sur la même voie. Je suis aussi, c'est un plus pour moi, parce que quand on pose des questions de ce sujet, qu'est-ce que c'est à propos de cette négociation qui nous met dans une position inconvéniente, disons, qu'on ne puisse pas dire que nous croyons vraiment que cela doit être fait. Et nous sommes très polis là-dessus, mais aussi nous pourrons être très fermes. Je dois dire que même si j'ai essayé de répondre à cette question plus d'une fois, où est le levier que les registraires ont? Je vais me tourner vers Rod et je vais lui demander quelle est sa perception, sa compréhension sur ce processus de négociation. Ce n'est pas un contrat entre deux parties où les deux côtés peuvent partager. C'est très asymétrique, disons. C'est un de nous et beaucoup d'entre eux. Est-ce que vous pouvez vous étendre là-dessus? La première chose que je vais dire, c'est que même s'il y a plus le chiffre, les nombres sont plus élevés de l'autre côté. Je suis sûre que nous avons assez de personnel pour établir ces négociations. Je sais que c'est pas facile pour les registraires non plus d'être en accord avec nous ou sur le fait nous allons pouvoir. Nous voulons aussi incorporer d'autres opinions qui sont là. Nous devons faire à notre mieux. Parce qu'il y a des options, il y a beaucoup d'options, mais il devrait y avoir aussi des choses qui puissent être, disons, contemplées de façon importante. Il peut y avoir des effets secondaires. Je pense que ainsi, l'équipe ICANN négocie de façon difficile et agressive sur ce qui pourrait améliorer le contrat et incorporer des inquiétudes, surtout les problèmes de conformité et d'autres inquiétudes pour les forces de l'ordre et d'autres groupes. Sam, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avec ça? Vous êtes au milieu de toutes ces discussions. Moi, je n'y suis pas en tant que PDG. Je pense qu'elle veut
fournir davantage de détails, si cela vous intéresserait. Pour avoir un microphone, s'il vous plaît. Encore une fois, Samantha Eisner. Nous lisons les contrats, nous connaissons les termes. peut-être que vous ne seriez pas surpris de savoir qu'il existe des différentes opinions entre ICANN et la communauté registraire au sujet de la portée de ce que signifie ce droit dans la provision de renouvellement. Je sais qu'il y a des références. Un processus de consensus politique le consensuel. Donc, il n'est pas écrit que ICANN peut tout simplement trouver une entente seule. Il y a un processus qui doit être suivi. Et ce processus lui-même, vu la configuration du GNSO, il exigerait une participation des registraires. Et c'est très important pour nous en termes de qu'il faudrait avoir des contrats suivis par les gens. Et donc, voilà notre priorité lors de ces négociations, c'est d'arriver à un point où nous avons une entente qui réalise les objectifs de la communauté, mais également d'ICANN et des registraires, parce qu'il s'agit de leur contrat, de leur entreprise également, pour trouver un point où nous sommes tous en mesure de respecter les termes et de les appliquer. Donc, existe-t-il d'autres options à envisager pour voir comment faire progresser le modèle si les négociations ne continuent pas? Clairement, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, nous tirons profit d'autres alternatives également. Evan Lebovitch, bonjour. J'imagine que je répondrai de la manière suivante en demandant au directoire et au personnel, en leur rappelant que ce n'est pas parce qu'il y a une négociation de contrat avec les registraires que le modèle multipartite ne devient pas un modèle à partie unique. La communauté fait au directoire et à la communauté de représenter l'intérêt général dans cette tractation. Donc nous comptons sur vous et vous avez la capacité, en cas de désaccord, qu'il n'y ait pas d'impasse. Il s'agit encore d'une fonction réglementaire. Le monde compte sur vous pour chercher et défendre l'intérêt public lors de ces tractations. Merci. Nous avons une file d'attente. Alan et Bertrand, quelques commentaires et rejets. Je suis tout à fait pour cela en termes de premier effort en ce qui concerne le processus consensuel et la participation jeunesse. C'est un sujet d'une petite partie du RAA qui exige un accord dans le cadre d'une politique de consensuel et du modèle multipartite. La plupart des termes ne sont pas un sujet au petit consensuel. Si vous lisez l'entente qui est similaire à l'accord des registres, je suppose. Je veux m'assurer qu'il y a une certaine confiance au niveau du directoire. Si ICANN a besoin d'exigences que le registraire n'accepte pas, qu'il y a une option que le directoire peut suivre et peut évoquer. Et c'est vraiment ce qui est crucial. Si cela n'est pas, on ne tient pas compte de ça, donc nous avons un problème. Lorsqu'on parlait en premier membre auparavant d'avoir des observatoires, d'autres parties siégeant dans cette discussion, les registres ont dit, et je cite, s'il y a d'autres personnes là, alors nous ne venons pas. Ma réaction à cela était, okay, d'accord, ne venez pas, ce n'est pas vraiment une négociation du point de vue juridique, strictement juridique. Il vaut mieux que toutes les parties se mettent d'accord à l'avance, mais ce n'est pas la seule option. Merci Steve. Bertrand, et ensuite Beau, et nous allons clore ce sujet. Comme vous le savez, c'est une discussion récurrente sur le RAA. Et je suis tout à fait dans le même esprit que Evan et Alan, ce qu'ils ont dit là-dessus. Et c'est vraiment troublant que, du fait de l'entente, sous forme d'entente finale, cela doit être négocié de manière bilatérale. Dans le meilleur des cas, il serait considéré comme un terme de service. Beaucoup d'entre nous signent sans même lire parce que nous n'avons pas le pouvoir de négocier lorsque nous utilisons un service. La réalité est que les registraires, le RAA, est une accréditation, est un temps d'accréditation de registraire. Et nous oublions souvent qu'il ne s'agit pas d'un contrat bilatéral, mais d'un accord d'accréditation. Donc, c'est ce qu'on exige des acteurs pour avoir le bénéfice, le privilège d'être reconnu. Le privilège d'être reconnu pour les registraires, c'est qu'avec une seule entente, un seul accord, ils obtiennent l'accès à tous les registres. Ce qui est très précieux pour les registraires parce que dans le cas de l'ouverture du programme des nouveaux GTLD, en cas d'absence d'accréditation, tout registraire devra négocier avec chacun des registres, des 1000 registres afin d'être accepté. Les désaccords sont très importants pour les forces de l'ordre également. C'est un outil pour eux parce que sans cet instrument, la police internationale d'application de la loi n'aurait aucune capacité d'agir contre les registraires qui se trouvent dans d'autres juridictions. Donc c'est un outil pour les autres différentes communautés qui doivent se rappeler que le RAA fixe les termes de service pour pouvoir fournir les services des registraires. Et en même temps, parce qu'il y a l'esprit de collaboration et les discussions, les registraires, bien sûr, ont un grand rôle, une voix au chapitre quant à la discussion, à ce qui doit se trouver dans le contenu. Mais je ne parle pas au nom du directeur, mais moi-même, comme je l'ai dit lors des réunions précédentes d'ICANN, je suis désespérée par la notion qu'il s'agisse d'un contrat, d'une discussion purement bilatérale, et nous devons soutenir le personnel. Je suis tout à fait pour les efforts d'ALAC pour renforcer le personnel, la position du personnel, parce que cela représente la communauté dans ce cas-ci. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Je pense que votre opinion est bien accueillie, Bob Bendler. Et ensuite, nous allons clore cette discussion. Merci, Bertrand. C'était très bien accueilli. Ma question porte également sur le RAA, mais un peu moins sur la négociation elle-même, mais surtout la portée des négociations. Nous sommes concernés que personne dans le secteur de l'intérêt public de la communauté ne puisse soit présent pour les négociations et en tout cas ne puisse pas faire de commentaires ou être observateur silent, mais nous sommes préoccupés également lorsque quelqu'un qui est actuellement le président du NOMCOM, d'ICANN, a une position tant de pouvoir et un des leaders de l'équipe de négociation de l'RAA. Donc je suis préoccupée que le directoire soit aveugle à ce qui se passe. Je ne pense pas que ce ne soit pas très bon. Donc, est-ce que vous êtes conscient de cela? Est-ce que vous cherchez à atténuer ces situations où il semblerait que les gens qui, de l'intérieur, sont bien positionnés pour obtenir ce qu'ils veulent? Je vais répondre rapidement. Oui, nous sommes très conscients de cela. Le sujet a été discuté plus d'une fois et sera discuté à nouveau. Il y a toujours un équilibre entre la manière dont la perspective extérieure, un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, et il est important de faire attention à ce qui est l'apparence et ne pas être gouverné entièrement par cela. Mais le cas est que nous sommes très sensibles et préoccupés par cela et très préoccupés par la qualité et l'expertise disponible. Donc, je vais m'arrêter là, mais je pourrais discuter encore davantage là-dessus, mais nous sommes très préoccupés par cela. Un autre argument là-dessus, qui se trouve donc dans la pièce au moment des négociations, est également important. Quelle est qui représente notre équipe juridique et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ces négociations? Tout cela est très important. Merci, Steve. Et en se rappelant les règles de conflit d'intérêts, Donc, c'est très important. Donc, prochain sujet, le rapport WHOIS et surtout, quels aspects pensez-vous devraient être soumis au travail de politique au sein du GNSO au lieu d'être laissé au personnel qui devrait le mettre en œuvre? Donc, Carlton Samuels, au fin d'enregistrement, en termes du rapport WHOIS, vous avez peut-être vu la déclaration à l'AC selon laquelle elle aurait accepté le rapport dans son ensemble. Dans un aspect est le problème avec le proxy, et je pense que cela devrait être soumis à la politique au sein du travail de politique au sein du GNSO. Un autre aspect du rapport, la précision des dossiers WHOIS et d'autres questions qui ont été soulevées, y compris la chronologie de mise en œuvre suggérée par l'équipe de révision. Et là, nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Merci. Merci, Carlton. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je m'embrouille facilement avec les noms aujourd'hui. C'est le jour de mardi. On est mardi aujourd'hui. Mardi, j'ai toujours un problème avec les noms. Et ça devient de plus en plus grave avec la fin de la semaine. Evan, j'ai juste un petit commentaire. Il est possible, à travers le passé, que nous ayons donné des signaux mixtes, mais il n'y a aucune ambiguïté. Nous sommes tout à fait pour l'équipe de révision WHOIS et l'idée d'avoir un WHOIS robuste et la redevabilité et la possibilité que les gens aient un recours. Ce ne suffit pas que tout le monde doit avoir un accès direct. Il y a des préoccupations en termes de confidentialité. L'équipe de révision a abordé ces sujets, mais cela doit être clair et non ambigu que dans At Large, nous sommes tout à fait pour. Et si vous recevez des signaux mixtes, comprenez que nous sommes tout à fait à 100% pour cela. Merci. Ce message est clair et par rapport aux autres volets qui devraient être soumis à des processus de développement de politique, donc juste la question des services par procuration, tout le reste est un détail de mise en œuvre, n'est-ce pas? Et pour être aussi clair, en tout cas moi j'ai bien compris le message, ce que nous en faisons à l'avenir. Nous ne sommes pas encore en position pour en parler, mais merci beaucoup pour votre position si claire. Donc, le dernier point ici indique budget et cycle de plan d'opération. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie en termes de questions, mais je ne l'ai pas écrit moi-même. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Quelle est la question que nous demandons à ALAC sous cet article, sur ce point? Chérine, j'imagine, je ne l'ai pas écrit cela non plus, mais en étant, je suis chef de la commission de finances, donc je vais essayer d'imaginer la grande question. Chris l'a écrit, mais il ne sait pas ce que ça veut dire non plus. Ok. Tout retombe sur le terme cycle. Voilà le gros problème. Est-ce qu'il y a assez de temps pour les commentaires publics et les rétroactions avant la prise de décision d'approuver la décision par le directoire? Nous avons une réunion demain avec les SO et les AC pour parler du cycle actuel. Et j'y serai, donc c'est très important pour l'année suivante. Mais j'aimerais un peu détailler le problème. Le problème est que la chronologie entre le plan stratégique, l'approbation du plan stratégique et l'approbation du budget. Et c'est, cela va ensemble. Et traditionnellement, nous affichons le plan stratégique. Nous recevons des commentaires et nous l'approuvons. Et l'approbation du plan stratégique se produit vers janvier. Nous affichons à ce moment le premier budget. Donc, vous avez entre janvier et juin, donc environ 6 mois pour faire le cycle du budget au lieu de 12 mois qui pourrait commencer en juillet jusqu'au prochain, parce qu'il y a 4 ou 5 mois presque qui attendent pour l'approbation du plan stratégique. Ensuite, nous affichons le cadre et nous avons des commentaires et nous affichons la version préliminaire et nous demandons des commentaires entre mai et la dernière réunion publique de l'année. Il n'y a pas beaucoup de temps pour vraiment avoir des commentaires, répondre et avoir une rétroaction correcte, appropriée à la communauté, pour que la communauté se sente qu'elle a vraiment été entendue. Donc, il y a très peu de temps. Et ce qu'on vraiment devrait faire, c'est de trouver une alternative pour démarrer l'affichage du cadre plus tôt. Donc, peut-être avant l'approbation du plan stratégique, ça, ce serait un problème, ou bien le plan stratégique devrait être plus rapidement. Je n'ai pas de réponse à cela. Nous devons vraiment améliorer cela parce que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct d'approprier tous les commentaires du public en 3 ou 4 semaines avant l'approbation du budget. C'est vraiment trop serré. Il n'y a pas suffisamment de temps pour que la communauté se sente qu'elle a été entendue et qu'il y ait une réponse à ces commentaires. Donc, voilà le problème que nous devons résoudre, surtout l'année prochaine, et améliorer la situation. Donc, ce serait peut-être... je vous donnerai une réponse, mais Tijani Benjema va parler de ça. Merci, Chérine, pour ce commentaire. Nous discutons toujours là-dessus, les contraintes de temps. Au cours des années précédentes, il y a eu un grand problème au sujet des rétroactions, des commentaires. Nous n'avions pas, le département n'avait pas suffisamment de temps pour interagir avec nous, puisqu'il y avait très peu de temps pour faire des commentaires, attendre les rétroactions, etc. Mais nous discutons toujours, mais lorsque les choses vont mieux, nous disons que les choses vont mieux et le département des finances a fait beaucoup d'efforts pour répondre et essayer d'interagir avec nous. Et chaque fois qu'on demandait un appel ou une discussion, ils ont toujours accepté notre demande. Et nous pensons que ces 2 dernières années étaient meilleures qu'auparavant en raison de l'attente des gens qui voulaient améliorer l'interaction. Et je peux dire que pour At Large, en tout cas, nous sommes satisfaits, même si les délais sont courts. Et le problème de l'approbation du plan stratégique plus tôt constitue l'une des solutions que nous avons discutées avec le département de finances. Merci, Tijani. Donc, c'est mieux, mais on peut mieux faire. Donc, Sébastien dans la file d'attente et ensuite Alain Greenberg. Sébastien Bachelet en premier. Merci.
Puisque nous profitons de rencontrer At Large et que At Large a toujours des outils d'interprétation qui sont mis à disposition de l'ensemble des participants. Je pense que cette question rejoint une question plus large qui est celui des périodes de commentaires que les uns et les autres peuvent faire le rôle que les individus peuvent avoir dans les commentaires et aussi le rôle que des organisations comme les RALO et ALAC du temps qu'ils ont pour faire des commentaires. Donc je pense qu'il faut que vous sachiez que dans le comité de public participation, c'est un des sujets sur lesquels nous nous penchons avec vos retours suite aux expérimentations les 6 premiers mois de l'année sur les commentaires, avec une ouverture de commentaires de 21 jours minimum, plus une ouverture de réponse à ces commentaires de notre 21 jours, qui ont été des problèmes pour ALAC, et que c'est, et qu'en même temps, on se pose une question spécifique au timing sur le budget, parce qu'il s'avère que tout le monde a dû travailler dans l'urgence les dernières semaines, et c'est bon pour personne. C'est bon ni pour les inputs que vous pouvez faire, que la communauté peut faire au staff en charge des finances, et en particulier à notre Chief Financial Officer, et c'est pas bon pour le travail du comité finances du board, parce que il y a un moment où il faut qu'on finisse, et c'est souvent ça a été un peu dans l'urgence, parce qu'il y a quand même des sujets importants à discuter. Donc je crois que c'est très important, c'est la question qui est sur la table, parce que nous espérons que vous allez pouvoir nous aider. Quand je dis nous, c'est pas nous le board, c'est nous, la communauté, à ce qu'on définisse un bon processus qui permette d'arriver à de bonnes décisions. Merci.
Thank you, Sebastian. Next is Alan Greenberg.
Ensuite, Alan Greenberg. Je soutiens le concept de la période de temps et donner plus de temps à chaque phase. Que la période de temps soit plus longue pour chaque phase. Et ça amène quand même des inquiétudes. Moi, mon expérience est de 40 ans dans les ordinateurs. Je me souviens que la vie d'un ordinateur était une petite fraction de temps de design pour chaque ordinateur. Les gens ont travaillé déjà sur les 2 ou 3 prochaines versions. Quand vous voyez qu'il y a un problème avec l'ordinateur courant, ce sera fixé avec le prochain et ainsi de suite, parce que les designs sont déjà prêts. Je suis donc un peu inquiet sur le fait que est-ce qu'on va pouvoir répondre aux changements. Notre business aujourd'hui, cela change très très vite. Si nous mettons ces cycles les uns sur les autres, est-ce que nous allons pouvoir répondre aux changements assez rapidement? Il ne faut pas qu'on dise qu'on va passer, on va attendre encore une année pour répondre. Ce ne sera pas équilibré. Sharine a la réponse à certaines de vos questions. Et bien sûr, Chris, puisque c'est vous qui avez originé et qui avez fait la question au départ. Je pense que oui, je pense que le point, disons, si on voulait faire cela de façon séquentielle et approuver un budget stratégique et aussi approuver le plan et ensuite mettre le budget opérationnel en place, vous devez accélérer le plan stratégique, le cycle du plan stratégique. Je ne vois pas pourquoi on parle de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, presque 6 mois pour mettre ce plan stratégique pour que ce soit approuvé. Il y a une façon d'accélérer cela même en 6 semaines, disons. Ça va faire beaucoup de différence. Disons, pas l'accélérer par moitié, mais au moins 6 semaines, 1 mois et demi. Ces 6 semaines seront valables pour répondre aux commentaires, pour avoir des réactions, des impressions. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous devons améliorer la productivité. Ces 6 semaines seraient suffisantes. Ce n'est pas sous notre contrôle, déjà? Ne serait-ce pas... N'avons-nous pas le contrôle, disant oui, il y a aussi des commentaires publics sur les plans stratégiques, donc oui, ça devrait l'être. Faisons-le, alors. Allons-y. Je voulais juste lâcher une chose très petite, une petite chose à l'agenda que l'on n'avait pas pu mettre à l'agenda quand l'agenda était fait parce que on ne savait pas si ça avait été, c'était comblé. C'est les améliorations at large. Et je suis content de dire que c'est complet maintenant avec le montant de travail qui a été fait pour la communauté at large. Et certains d'entre eux sont là dans cette salle ou sont avec nous à distance. C'est le travail qui a été mis en place par Charine. Ils ont vraiment fait beaucoup de travail et nous voulons les remercier. Mais bien sûr aussi notre personnel aussi qui a travaillé nuit et jour pour que cela soit complet. Ça a été un projet très long de plusieurs années. Et Christy Spain a mis... Chris, vous avez le droit de parler puisque nous sommes dans une classe. Et si le census veut bien le permettre. Ça mal, oui. Pardon. Olivier, je suis conscient d'une chose, le travail que vous avez fait, par exemple, tous d'entre vous, normalement, disons, dans le temps, quand on avait la réunion le vendredi matin, on aurait déjà passé une résolution le vendredi matin et on vous aurait dit, oui, vous avez fait du bon travail, on aurait accepté le rapport, etc., etc. Je suis conscient que si on fait ça durant une réunion téléphonique, c'est pas pareil que de le faire ici, devant la salle, devant tout le monde. Je voulais vous dire merci. C'est vraiment très apprécié. Merci. L'absence du réunion du vendredi matin ne nous empêche pas de faire des annoncements publics de façon publique, forum public, disons. Ce n'est pas, c'est bien que quelqu'un nous rappelle que nous ne voulons pas en perdre cette opportunité de recevoir les merci, les appréciations. J'espère que nous pouvons donc le faire à une audience plus grande que nous l'aurions nos réunions de vendredi matin. Il y avait, Sébastien, vous aviez suggéré qu'il y avait quelque chose qui était sur une diapositive qui était partie sur l'agenda que nous avions fait à l'origine. Oui, j'ai reçu un message du personnel qu'il y avait une autre question à propos du batching. Je voudrais un peu lire la question si vous voulez, je l'ai, mais peut-être quelqu'un là aussi. Nous avons cette question maintenant, batching. Voir un batch simple, est-ce que vous pensez qu'il y aura un consensus, qu'on arrive à un consensus et quelle est la période de temps que nous avons pour faire un batch simple, s'il doit y avoir du batching, est-ce que vous pensez qu'il y a un consensus autre qu'une méthode d'arche digitale qui pourrait être utilisée? Simple question, petite réponse s'il vous plaît. Charine? C'est une question qui du directoire vers ALAC, mais allons-y quand même. Je voulais vous dire que je voulais être sûr que c'était pas dans l'autre sens. Sharon de Langue de Nord pour le rapport. Je voulais vous m'assurer que nous n'avons pas un consensus puisque nous n'avons pas appelé au consensus, mais nous avons eu beaucoup de conversations dans beaucoup de forums. Et pour vous donner un exemple, le RALO qui s'est passé ce matin à 7 heures, beaucoup du temps de l'agenda a été passé on a parlé de cette mesure exacte. Et surtout pour Allah qui a soutenu les nouveaux GTLD. Et c'était une inquiétude à propos des IDN qui n'allaient pas être en batch. Ça vient quelque part, le fait que le batching simple est quelque chose qui est probablement qui est suggéré et qui va être très attirant. Nous sommes donc inquiets que les choses ne soient pas faites de la façon plus traditionnelle et que les choses seront peut-être appliquées vis-à-vis des communautés ou que comme dans les communautés et l'internalisation des noms de domaine. et nous a donné une réponse de consensus. Mais on ne peut pas donner une réponse de consensus. Je ne suis pas sûre que je peux vous dire qu'il n'y a personne qui ne n'aime pas ça. Mais je n'ai pas encore entendu cela. Mais d'ici que j'entende cette réponse, n'existeront plus. Merci, Sharon. Il n'y a pas encore eu donc de consensus. Il n'y a rien qui est ciblé. Evan Leibovitch, vite. Oui, je pense que dans le cirque, avec les gens avec qui j'ai parlé, le sentiment est que ce problème de Bachin et tous les problèmes entre les Africains eux-mêmes est essentiellement entre les demandeurs. Et en termes de at large, je ne pense pas qu'il y a de préférence dans les procédés. Le problème, c'est que la réputation d'ICANN, la propre réputation d'ICANN et l'archerie digitale, et toutes ces bosses et ces problèmes qu'on a rencontrés n'ont pas pu aider l'image de ICANN. Et pour trouver une résolution compétente, effective, c'est pas encore fait. Pas donc de consensus clair, mais beaucoup d'opinions intéressantes de la part de la communauté. Une clarification, Cheryl, vous avez dit personne n'aime pas cela. C'est ce que je voulais m'assurer. Personne n'aime ça. Une clarification, s'il vous plaît. J'ai oublié de vous dire, c'est de l'anglais australien. Edmund, vous vouliez dire quelques mots? Edmund Chang. Merci, Olivier. Edmund Chang au micro. La plupart d'entre vous savent que c'est cher, ce sujet m'est cher, les IDN. Une des choses à propos du batching, personnellement, je mettrai IDN en premier, mais un des problèmes avec le processus de batching, du moins de mon point de vue, c'est que c'est un processus qui n'est jamais allé vers les commentaires publics. Donc, ce processus a créé un produit qui n'était pas aimé par quiconque, qui n'était pas donc aimé par beaucoup de gens. J'encourage le bureau, le board, à mettre cela devant les commentaires publics pour rassembler de l'information et ensuite prendre une décision. Je pense que c'est un processus qui arrangerait les choses, qui améliorerait ce système. Je pense que si on ouvre cela aux commentaires publics, on pourrait faire ça pendant juste une petite période, disons 2 heures. Nous avons une petite idée déjà de ce qu'on devrait savoir. Merci, Steve. On dirait que nous allons avoir les 2 heures. Tout le monde lève sa main et nous allons parler avec Admin Evan et ensuite nous avons fermé cette session. J'aime bien que beaucoup de gens aient eu beaucoup de discussions là-dessus cette semaine. C'est intéressant qu'il n'y a pas d'accord entre la bonne façon de faire les choses. Il y a beaucoup d'accord sur la mauvaise façon de faire les choses. J'ai pas entendu beaucoup de gens qui étaient pas d'accord avec le concept que ICANN décide de gérer les IDN en premier. Il y a pas beaucoup d'objections. Il y a beaucoup de gens qui demandent des TLD communautaires qui pour nous ne sont pas des communautés. La chose que je mettrais ce sont ceux qui sont contestés. Ils seront allongés par la suite, et ça prendrait une grosse partie de tous les nombres que vous devez adresser. Ça veut dire que les autres, cela rendrait les autres plus gérables. Merci, Alan. Une idée qui a été partagée, c'est que nous considérons le budget et pour voir combien cela coûterait, tout cela. C'est comme la loterie, c'est la première chose que nous voulions faire. Et nous voulions pousser, ça a été poussé par l'équipe juridique, mais ce n'est pas vraiment consistant dans la structure dans laquelle nous opérons. On ne pouvait pas le faire. Je peux vous dire que les nouvelles personnes qui rentrent dans la conversation, qui ont des questions sur ALAC, qui ont des opinions compétentes. On a examiné cela. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut continuer et monter dans les hiérarchies au niveau du système juridique pour voir si ça peut être interprété de cette façon? Toutes ces choses ont été faites par différentes personnes plusieurs fois et les résultats ont été très consistants lorsqu'ils nous sont revenus. Ça a été donc exploré plusieurs fois, plusieurs façons, et pas seulement de façon informelle ou des réponses informelles. Nous avons dû vivre avec ces résultats. Merci beaucoup à chacune des personnes qui sont là. Nous avons des mots de fermeture de Rod Beckstrom, président et PDG de ICANN. Merci Olivier, et je voulais juste vous remercier tous d'entre vous et vous féliciter. Je sais que de cette position en tant que PDG, je vois très très peu, pas tout le travail qui a été fait par les ALAC. Je ne vois pas ce qui est fait dans ces structures, ces 144 structures dans le monde ou même dans les RALO. Mais de mon côté, de mon point de vue, vous travaillez pour amener vos voix sur les problèmes, les inquiétudes des utilisateurs finaux. Et c'est vraiment important à ce modèle de multipartite que nous avons. Et c'est pour nous aider à améliorer nos pratiques dans cette organisation et voir le progrès, la croissance de ces structures dans le monde, atteindre de nouveaux pays et aussi la création, votre création de nouveaux forums tels que les Showcase RALO qui ont généré encore plus d'enthousiasme. Et tout ce qui se passe à travers ALAC a amené plus de gens, éduquer plus de la communauté africaine. Ce n'est pas facile, c'est pas simplement. Moi, je suis un membre ALAC et je serai toujours un membre ALAC après mon départ lundi. Je me rappelle dimanche, disons, je me rappelle à San Francisco le chapitre ISOC. Et aussi, je voulais aussi vous féliciter pour les progrès dans vos autres activités. Vraiment, 20 déclarations de politique. Déjà, beaucoup d'entre vous coordonnez à travers les 5 régions. Et je sais que nous savons que cela prend beaucoup, beaucoup de travail dans votre communauté pour que cela se passe bien. Je voudrais dire que tout le monde dans le board et dans le personnel, que nous applaudissions tous les membres de la communauté ALAC, toutes les communautés à travers le monde. Merci. Et merci à notre personnel qui travaille sans cesse et de façon diligente pour soutenir ces groupes. Bien ça. Merci Olivier, merci à tout le monde. De la part du board, nous attendons ces échanges. Vous savez, nous avons modifié le format pour vraiment, au lieu de juste vous rencontrer avec des cocktails, vite fait, ce format est beaucoup plus, nous aide beaucoup plus pour pouvoir parler des problèmes et avoir un échange direct. Et c'est très apprécié. Merci Steve. Hier, nous avons célébré les 10 ans du comité consultatif de At-Large et des ALAC. Nous vous invitons pour le 20e anniversaire dans 10 ans. Merci.